Catherine le matin. Voici le Doc Mayou.
Je soupçonne fortement que l'attitude de la couronne est le résultat d'une volonté politique et non juridique. On sait maintenant que personne n'est à l'abri d'un drame lié à la maladie mentale. On ne le souhaite à personne. Cette terrible maladie n'a pas de couleur, pas de religion, pas de sexe.
Alors voilà, ça c'est un court extrait de ce qu'a dit hier le père d'Alexandre Bissonnette, Raymond Bissonnette. Un petit peu plus tôt ce matin, on vous a joué pratiquement intégralement ce point de presse qui a été très suivi, très écouté. On vous a entre autres diffusé le point de presse en direct dans l'émission de Robert. Beaucoup de choses à dire, j'avais hâte de l'entendre sur ce sujet et je vais lui faire entendre également les propos du docteur Gilles Chamberlain qui l'a... c'est le psychiatre qui a évalué Alexandre Bissonnette. Bon, le problème, c'est que c'était fait 3 mois et demi plus tard, là, mais quand même, je vais vous le faire entendre. Bonjour, Dr Mayou.
Oui, Catherine, Raphaël et Serge.
Bonjour.
Intéressant,
bonjour.
Je vous écoutais.
Mm-hmm.
Très intéressant. Oui, tu voulais me faire écouter quelque chose?
Oui, bien, entre autres, ben, là, je vous avais entendu les extraits. L'avez-vous écouté au complet, les propos du père d'Alexandre Bissonnette?
Non, je ne les ai pas. J'en ai entendu des extraits, oui.
OK. Donc, ce que vous venez d'entendre, qu'est-ce que vous trouvez le plus marquant dans ce qu'il a dit de « Mon fils n'est pas un monstre », c'est l'intimidation qu'il a vécue, qui a duré des années. On n'en a pas tenu compte. On n'a pas vu les signes que notre fils était malade, pour commettre un tel geste. Dans tout ça, le Dr Mayou, comme psychiatre, qu'est-ce que vous retenez?
Bien, ça peut être vrai. Les maladies psychiatriques, souvent, peuvent être très discrètes et échapper en grande partie à l'entourage.
Ah oui?
Oh oui, c'est fréquent.
OK. Donc...
Et il a tout à fait raison sur un point, lorsqu'il dit que c'est... Il y a beaucoup plus de politique dans cette histoire-là que de juridique. Il a tout à fait raison. Je me rappelle très bien Denis Lortie, 1986. au procès, la couronne, le juge tenait absolument à ce que Lortie soit sain d'esprit. J'ai été une épine dans le pied pour le système à l'époque, étant psychiatre pour la défense. Et on voulait que Denis Lortie soit un militaire envoyé par le fédéral pour exterminer le PQ. C'est ce qu'on voulait, puis ça sentait d'un corridor. C'était désagréable.
Mais je vous pose la question.
On a même essayé de me faire incarcérer en insinuant que j'avais menti. Heureusement, j'avais dit la vérité.
Mais je vous pose la question, Dr Mayou. Lortie, là, on l'avait évalué quand? À partir de quel moment? Est-ce que ça s'était fait rapidement?
Attends un petit peu. Je pense qu'en stand... Et c'est une sacrée bonne question que tu me poses là.
Parce que là, on critique le fait que...
Alors, combien de temps après l'arrestation de Lortie?
Ouais.
C'est arrivé au mois de mai, ça, la tuerie?
Oui, il me semble bien.
C'est arrivé au printemps, ouais, mai, juin, mai. Et écoute, tu me poses... Je me rappelle pas, je voudrais pas induire okay. en erreur, mais c'était pas si loin que ça des événements.
Non, donc, en tout cas, peut-être vous nous reviendrez là-dessus. Là.
Et c'était à la demande des avocats de la défense.
Ben, il faut que ce soit à la demande des avocats de la défense, c'est ça la problème.
Pas nécessairement, non,
oui,
non.
Oui, oui, oui. Parce que
la couronne peut très bien demander lorsque un geste est commis, tout le monde,
oui, oui,
la défense
mais...
peut demander un examen psychiatrique, la couronne peut demander un examen psychiatrique, le juge peut demander, j'ai déjà eu à deux reprises, mm-hmm. un juge qui m'a appelé pour que j'aille examiner à la prison un détenu.
Oui, mais oui, vous avez raison.
Tout le monde peut demander, ouais, dès mais... que quelqu'un a un doute. Garde, la loi, c'est ainsi fait. Tout le monde, tous les justiciables sont présumés sains d'esprit, à moins qu'on ait des raisons de croire qu'ils ne le sont pas.
Oui, absolument.
Et là, ça prend un examen médical.
Mais moi, ma question, ce que je comprends pas là-dedans, c'est que, premièrement, comment ça se fait que ses propres avocats n'ont pas demandé rapidement qu'il soit évalué? La couronne
oui.
n'avait pas intérêt. La couronne, ils en veulent pas de verdict de non-responsabilité criminelle.
Okay. Bon,
on s'entend
voilà
là-dessus.
Ça. Oui, je suis d'accord avec la majeure partie de ton propos tout à l'heure avec Robert. Oui, je suis d'accord avec toi. La couronne, c'est visible. C'est évident que la couronne ne voulait pas qu'il soit atteint mentalement. Elle le voulait sain d'esprit,
voilà.
pleinement responsable de ce qu'il avait fait, bien planifié son geste. C'est évident que la couronne voulait ça. Pourquoi? Allez leur demander.
Bien, parce qu'on en a une partie de la réponse. Ce dossier-là est tellement... a été rapidement émotif. Ça touche une communauté religieuse. Alors, c'est très explosif comme sujet.
Définitivement, tout à fait d'accord avec ton hypothèse.
Absolument. Alors, le père d'Alexandre...
J'ai écouté en entier l'appel 911 que Bissonnette a logé
à
la police.
Mm-hmm.
OK? À la police de Québec. 25 minutes après la tuerie. Ben là, il dit, je sais pas trop quoi faire, pouvez-vous venir me chercher? Je sais plus quoi faire. Hey, il a planifié sa tuerie. Il appelle la police, venez me chercher. Je sais plus quoi. Je m'en vais dans le bois, là, dans Charlevoix, puis je m'en vais me suicider.
Mais il y en a beaucoup, là, Dr Maillot, qui pensent que c'était de la manipulation.
Ben oui. Toi, tu fais une tuerie, puis ensuite t'appelles la police, venez me chercher, je sais plus où m'en aller. Ah, c'est ça, c'est de la grosse manipulation. Il faut être un petit peu...
OK, vous y croyez pas. Vous ne croyez pas à cette
théorie-là. Allô, okay. Catherine.
Mais non, mais Dr Maillou, tu sais, il y en a plusieurs.
Le gars planifie... Le gars a toute sa tête, planifie le massacre, mais il a oublié de planifier après le massacre.
Ah, ouais.
Puis là, il va manipuler la police. Ah, ouais. Sérieux.
Non, OK, ben je...
Non, pas sérieux.
Bon, OK. Je veux faire entendre le docteur Chamberlain, OK? C'est lui
qui
l'a...
Ah, tu es Gilles!
Je vais y aller avec le docteur Chamberlain pour ma part. On va le faire entendre.
Ah oui, c'est mon ami Gilles.
Oui, OK. C'est votre ami. Bon. Alors, faisons entendre votre ami à l'instant avec Paulo d'hier après-midi.
La couronne a beaucoup de choses à prouver dans un procès. Il faut qu'elle prouve l'intention, il faut qu'elle prouve que la personne a fait le geste, et ça, hors de tout doute raisonnable. Par contre, une chose que la couronne n'a pas à prouver, c'est que les gens sont sains d'esprit. C'est une des rares choses que la couronne n'a pas à prouver parce que tout le monde est présumé sain d'esprit. Donc, dans sa preuve, la couronne n'a pas à faire témoigner un psychiatre pour parler de l'état mental d'un individu. C'est un moyen de défense que la défense peut utiliser ou pas. Et dans le cas de M. Bissonnette, évidemment, la couronne m'avait demandé d'être disponible si jamais il avait besoin d'être évalué. Et la défense de M. Bissonnette n'a pas fait valoir de défense de non-responsabilité. En fait, il a plaidé coupable. Et à partir du moment où quelqu'un plaide coupable, il n'y a pas de discussion sur l'état mental, ni d'un côté, ni de l'autre. Donc, on ne peut pas évaluer quelqu'un quand on travaille pour la couronne avant d'avoir le rapport de la défense pour voir qu'est-ce que la défense a vu dans son état mental. C'est une contre-expertise quand on travaille pour la couronne, dans le fond. C'est quelqu'un qui... Il y a un professeur, effectivement, qui est venu décrire la souffrance de cet individu-là, comment il était victime de ça. Mais il y a un parallèle qui est intéressant, c'est que son frère jumeau aurait été victime à peu près équivalent, de gestes à peu près équivalents aussi. Donc, on a un modèle de quelqu'un qui avait vécu à peu près les mêmes choses et qui n'a pas tourné de la même façon.
Docteur Maillot, votre réaction?
C'est gênant. Gilles est souvent embarrassant comme psychiatre. Quand on travaille pour la couronne, t'as entendu ça?
Oui.
Depuis quand qu'un psychiatre se prostitue pour une partie?
Docteur Maillot.
Un psychiatre n'est pas à la solde de la couronne, voyons. Et Gilles, régulièrement, j'ai été le consultant, le psychiatre consultant pour les services correctionnels dans les années 90, pendant 10 ans. Et j'ai mentionné, avant d'avoir entendu Gilles, que j'ai eu des téléphones de la couronne, de juges et de la défense. Le psychiatre ne travaille pas pour la défense, ne travaille pas pour la couronne, ne travaille pas pour le juge. Il est psychiatre. Il fournit une opinion indépendante suite à une expertise sur quelqu'un.
Mais Dr Maillot, je pense que Dr Chamberlain, c'est un peu... trahi, et je le dis poliment, mais entre vous puis moi, là, quand vous êtes demandé par une partie, OK, que ce soit la couronne ou la défense, moi, j'en ai couvert du palais de justice, puis évidemment, si vous venez présenter une expertise pour la défense, je pense pas que vous allez aller à l'encontre des arguments de la défense. Comprenez mon point? Sans dire que vous êtes engagé par la défense, il y a des bonnes chances que vous ayez du même bord. Que votre expertise vienne confirmer la théorie de la défense, je le dis mieux.
Non, c'est l'inverse.
C'est l'inverse?
Non, c'est l'inverse. C'est la défense va défendre une théorie suite au rapport d'expertise du psychiatre. Prenons Marie-Frédérique Allard, par exemple.
Oui.
Puis tu devrais l'appeler, elle est fine, Marie-Frédérique.
Absolument,
j'aime beaucoup.
Oui.
Et Marie-Frédérique a été appelée dans le dossier. Le père Bissonnette le mentionne en mars 2018, n'est-ce pas?
Oui.
Un an et quelques mois après le crime. Il commence à être tard.
Ben oui, mais c'est ça la problématique.
Alors, Marie-Frédérique Allard évalue des patients psychiatriques, évalue, puis avec une de ses consoeurs, ils évaluent des aptitudes à subir le procès. Et ça, c'est demandé par différentes personnes. Parfois par la défense, ça peut être demandé par la couronne, et ça peut être demandé par un juge. Ils sont envoyés à l'hôpital Sainte-Thérèse, ils sont examinés. Parfois, tout le monde est d'accord. Parfois, il peut y avoir des désaccords.
Mais ça nous
ramène... C'est pas vrai, écoute. Quand on travaille pour la couronne, aïe aïe.
Mais ça nous ramène...
Gilles, il est gênant.
Mais docteur
quand
Mayou...
on travaille pour la couronne, voir si un psychiatre travaille pour la couronne.
Ben, c'est sûr que c'est peut-être pas le bon mot à choisir.
Ben oui, mais à l'âge qu'il a, il est avocat et psychiatre, le gars. Gilles Chamberlain a fait son cours de droit.
Ouais.
Il est avocat médecin.
Oui, oui. Mais moi, on va revenir à la base, OK? Concernant Alexandre Bissonnette, là, ce qu'on ramène, le fait qu'on ne l'a pas rapidement évalué tout au long des procédures et à partir du moment où il a plaidé coupable, son discours est très changeant. Tu sais, on a l'appel 911 qui nous le présente d'une façon. Puis là, après ça, bon, il plaide coupable. Puis là, il va dire en cours, il a déclaré à un moment donné avec les policiers, j'aurais aimé ça en tuer plus. Puis là, t'as l'autre côté, je m'en souviens pas d'avoir tué, je sais pas, je suis où, je vais m'enlever la vie. C'est tellement confus que tu te dis, coudon, le vrai Alexandre Bissonnette, le vrai état d'esprit de l'individu, c'est quoi? On ne le sait pas. Parce que 3 mois plus tard, il devait être médicamenté, sûrement.
Ben écoute, ce serait vraiment extrêmement surprenant qu'il ne l'ait pas bourré de pelules en prison. Ce serait la première fois que je vois quelqu'un qui fait un geste de cette ampleur-là puis qui n'est pas surmédicamenté. Alors, ça agit, c'est de son psychotrope, ça agit sur le cerveau. Et tout ce qui était dit suite à son incarcération, hormis l'appel 911, là, il n'y avait pas de pilule donnée par le médecin de la prison. Là.
Je vous pose la question suivante, Dr Mayou. Quelqu'un qui n'a pas été diagnostiqué avec une maladie mentale, même s'il a subi de l'intimidation, peut-il tuer du monde? Peut-il commettre un meurtre?
Bon, tout est possible, parce que la rage chez l'humain peut déclencher des comportements homicidaires.
Ah oui?
Bon, tout est possible. Cependant, dans l'étude de Raphaël, tout à l'heure, très intéressant, ils sont aperçus, le FBI, en étudiant les individus qui avaient commis des crimes, des fusillades. Le 3/4 d'entre eux n'avaient pas de diagnostic psychiatrique au moment de la fusillade. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas malades.
Mm-hmm.
Mais il n'y avait pas eu de diagnostic psychiatrique. Mais Raphaël, par la suite, a fait allusion à des dépressions, de la paranoïa.
Ouais.
Alors, dans ma carrière, j'ai vu plusieurs individus paranoïaques qui avaient des idées homicidaires. J'ai vu plusieurs individus désespérés qui avaient envie de tuer. Alors, j'ai vu tout ça dans ma carrière. Et quand un individu, puis d'ailleurs de plus en plus les milieux de travail le savent, lorsqu'un individu se met à soupçonner indûment tout le monde, les soupçonner, être très méfiant, se sentir persécuté par le milieu de travail, il y a plusieurs milieux de travail qui savent maintenant que c'est dangereux, puis ils l'envoient en examen psychiatrique.
Bien, je vous ai entendu récemment, avant que vous terminiez votre émission, dans la dernière semaine de votre émission, il y a une dame qui vous a appelé et qui parlait de son fils et qui avait des réactions, qui soupçonnait sa mère, qui l'accusait. Et vous lui avez dit, restez le plus loin possible de votre garçon parce qu'il était dans un délire, de ce que j'ai compris. Là.
Il avait incorporé sa mère. D'après ce que j'ai entendu, il aurait possiblement incorporé sa mère dans son délire.
Oui.
Très dangereux pour la mère. Parce que le FBI, dans l'étude de Raphaël, peut-être que vous n'avez pas remarqué, mais le FBI a dit que ce sont des hommes blancs qui commettent une fusillade dans un environnement familier.
Ah.
Vous avez bien entendu?
Oui, vous ne l'avez pas relevé, vous faites bien de le... Oui, OK.
Bon, c'est pour ça que vous m'appelez.
Oui, je le sais, entre autres.
Pour relever des éléments qui n'étaient pas évidents dans un environnement familier. Alors, les patients psychiatriques, lorsqu'ils commettent des crimes... C'est sur le plus souvent, c'est sur un proche.
Ouais.
le père, la mère, et si vous relevez les histoires de Pichet puis d'Alouette, vous allez voir que ce sont les parents qui ont été attaqués ou tués.
Merci d'avoir relevé ça, parce qu'en effet, c'est
ben
pertinent.
Ben oui. Et Catherine, un petit mot. La peine de mort au Canada a été abolie le 14 juillet 1976.
Oui.
Sous Pierre-Éliott Trudeau, 130 voix contre 124. Ça avait passé de justesse l'abolition de la peine de mort.
Oui.
Et je suis tout à fait d'accord avec toi, Robert aurait avantage à considérer le fait que son 150 ans, c'est l'équivalent d'une peine de mort. Il va mourir en prison.
Oui, c'est ça.
Pourquoi pas le tuer?
Ben, c'est ce que son père a dit hier, et c'est exactement
ben
ça.
Oui,
là, on va arrêter d'être hypocrite. Si on condamne du monde à 150 ans, je veux bien, mais rendu là, ramenons la peine de mort, c'est la même chose.
Définitivement.
Même combat.
Mais quelle hypocrisie sociétale!
Oui, ben, on n'est pas pire là-dedans ces temps-ci, je trouve qu'on ne se souvient pas de notre histoire.
Là,
on est dans le déni.
Oui, les enfants migrants, le grand scandale américain, là, ils s'aperçoivent, qu'est-ce qui arrive aux enfants migrants en Europe?
Oui, oui.
Qu'est-ce qui arrive aux enfants migrants au Canada? Oh, ce matin, un article. Qu'est-ce qu'on fait, nous autres, avec les gamins de ceux qui migrent, là? F.
Oui, oui, absolument. Mais hier, là, ça a commencé à circuler aussi, l'hypocrisie envers les Autochtones. Ça commence à être soulevé par d'autres journalistes.
Oui, je l'ai soulevé hier matin.
Oui,
là,
je le sais.
Oui. Alors, notre hypocrisie.
Bon.
Écoute, Jean Lesage, l'autoroute Jean Lesage passe une loi menaçant d'incarcérer les pères des enfants qui ne voulaient pas envoyer faire instruire leurs enfants dans des pensionnats autochtones. Aïe aïe! Aïe aïe! Des tout-petits 5 ans, 6 ans, auxquels on interdisait de parler leur langue, on les tondait.
Ouais.
Et dans bien des cas, on les maltraitait. Hein?
Voilà. Mais ça, on ne s'en souvient pas, ça fait trop longtemps. On ne veut pas s'en souvenir à l'occasion. Docteur Mailloux?
Il arrive parfois qu'on aime mieux regarder plus loin que de regarder plus proche.
Ben c'est ça. Ça fait moins mal. Je vous souhaite une belle fin de semaine. On se reparle. N'oubliez pas que lundi matin, on n'est pas là.
Oui, j'ai pas oublié.
Bonne fin de semaine. Bonne Saint-Jean. Moi, je fête encore la Saint-Jean. Je vous agace un petit peu. Je sais que l'aspect religieux, ça doit vous plaire énormément. Fait que bonne fête nationale ou bonne Saint-Jean.
Je vais me prostrer. Je vais me proscrire et aduler.
Jean-Baptiste.
Invoquer.
Je vais aller fêter ça avec
implorer. Vous. Implorer. Aïe, aïe, aïe.
Vous êtes un peu frisé, de la chevelure, un peu comme Jean-Baptiste, Dr. Mailloux.
Oui.
Je vous trouve des points de repère. Bonne fin de semaine à mardi,
bye,
7h31. Dr. Mailloux, on vous place ça rapidement sur notre site internet fm1069.ca. Profitez-en la semaine prochaine, c'est sa dernière semaine avec nous. Va profiter de quelques semaines de vacances et sera de retour le 13 août prochain.